Le journal présenté par Valentine Joubin.
Bonsoir à toutes et tous. La jeunesse américaine fera-t-elle flancher Donald Trump ? Plusieurs rassemblements ont lieu ce soir pour demander au président la fin de la libre circulation des armes. Un mouvement né il y a une semaine après la tuerie de Parkland en Floride. Notre correspondant Grégory Phillips a suivi les cortèges. Nous le rejoindrons dans un instant. Dans ce journal, nous parlerons aussi de la Ghouta orientale, l'enclave syrienne rebelle sur laquelle s'acharnent les forces pro-gouvernementales. Nous essaierons de comprendre quelle est la stratégie du régime de Damas. En France, c'est un gros revers pour Anne Hidalgo. Le tribunal administratif de Paris annule l'interdiction de circuler sur les voies sur berge. La mairie de Paris va faire appel. L'invité de ce journal est Jérémy Decerle, le président des jeunes agriculteurs. Demain, il rencontre Emmanuel Macron à l'Élysée. Qu'attend la jeune génération paysanne ? Réponse en fin de journal. Une semaine après la fusillade de Parkland, le mouvement anti-armes aux États-Unis prend de l'ampleur. Des dizaines de lycéens sont rassemblés ce soir à Tallahassee, petite capitale de la Floride, pour dire « plus jamais ça, never again ». C'est le slogan de cette jeunesse qui réclame un durcissement de la législation. Une manifestation suivie par notre correspondant aux États-Unis, Grégory Phillips. Bonsoir Grégory.
Bonsoir Valentine.
Alors vous êtes maintenant à Washington, près de la Maison Blanche, où Donald Trump doit recevoir tout à l'heure des lycéens et des étudiants, et où se tient un autre rassemblement.
Oui, ils étaient quelques centaines à manifester aussi à Washington cet après-midi devant le Capitole et devant la Maison Blanche. Vous entendez les slogans derrière moi, shame on you, honte sur vous, la NRA doit partir, ou encore gun control now, le contrôle des armes maintenant. Depuis une semaine, le mouvement des lycéens ne s'essouffle pas, en Floride évidemment, mais aussi ici dans la capitale fédérale. Et d'ici une quinzaine de minutes, vous l'avez dit, le président Donald Trump doit recevoir à la Maison Blanche des élèves et des parents de Parkland en Floride, ainsi que des enseignants, mais aussi des familles endeuillées à Columbine en 99 ou bien à Sandy Hook il y a 6 ans. Alors que va leur dire le président ? Eh bien, il va sans doute leur répéter qu'il veut trouver une solution pour empêcher ces drames, sans doute revenir sur le début de concession amorcé hier, à savoir l'interdiction de ce qu'on appelle les bump stocks. Vous savez, ces mécanismes qui, ajoutés à un fusil semi-automatique, leur permettent de tirer avec des rafales encore plus rapides. Mais ce qu'on entend beaucoup dans la bouche de ces lycéens, de ces jeunes gens qui manifestent en Floride ou ici à Washington, c'est qu'ils veulent plus une interdiction total, par exemple, des fusils d'assaut dans le pays.
Merci Grégory Phillips, vous étiez en direct de Washington. Deux soldats français ont été tués aujourd'hui au Mali, à la frontière avec le Niger. Les deux militaires ont été tués dans l'explosion d'une mine artisanale. Cela porte à 22 le nombre de militaires tués dans le cadre de l'opération anti-djihadiste Barkhane. Près de 4000 soldats français sont ainsi déployés au Sahel. La France et l'ONU appellent à une trêve dans la Ghouta orientale. L'enclave rebelle est devenue un enfer sur terre, dit Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Depuis dimanche, les forces pro-gouvernementales bombardent sans relâche et tuent des civils. 310 victimes en 3 jours, dont 72 enfants et 45 femmes. Bilan établi par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Derrière cet acharnement, Bachar el-Assad a-t-il une stratégie ? Quel est le but recherché par le président syrien ? Écoutons l'analyse du chercheur Fabrice Balanche, spécialiste du conflit syrien.
L'armée syrienne, depuis déjà 2014, elle a resserré son étau sur la Ghouta et s'est emparée de beaucoup de territoires. Et elle attaque par l'est, parce que c'est plus facile de rentrer dans la Ghouta par la banlieue agricole, où il y a une faible densité de population, où il y a des petits villages. C'est donc beaucoup plus difficile à défendre pour les rebelles. Alors qu'à l'ouest, la partie urbanisée, il y a des immeubles sur lesquels on peut installer des snipers. À partir d'un immeuble, il est facile d'arrêter un char juste avec des cocktails Molotov. Donc c'est beaucoup plus difficile pour l'armée syrienne de rentrer par l'ouest de la Ghouta. Alors lorsqu'ils auront repris la campagne, il restera donc une bande urbaine de 3-4 km de large sur 15 km de long. À mon avis, ils vont couper cette zone en deux, isolant la ville de Douma qui se trouve au nord du reste. Et ça sera plus facile pour réduire ensuite les morceaux urbains. Alors, ça m'étonnerait qu'ils donnent l'assaut, parce que c'est quand même coûteux, compliqué. Ça va se passer comme à Alep, comme dans d'autres fiefs de la région de Damas, comme Daraya. Il y aura une négociation. Les rebelles qui voudront rester, eh bien, ils bénéficieront sans doute d'une amnistie. Et puis les autres, ils seront exfiltrés vers Idlib, comme ça s'est déjà produit dans le passé. Et l'armée syrienne réinvestira les derniers noyaux urbains sans combat jusqu'au boutiste.
Fabrice Balanche, spécialiste du conflit syrien, répondait à Valérie Crova. C'est un choix politique qu'Anne Hidalgo doit défendre presque chaque jour, tant il est critiqué, qui lui vaut la haine de nombreux automobilistes parisiens. La piétonnisation des voies sur berge à rive droite vient d'être annulée par le tribunal administratif de Paris. La juridiction estime que l'étude d'impact qui a servi de base au projet comportait des inexactitudes, des omissions et des insuffisances. Il s'agit notamment de l'impact sur la circulation, la pollution atmosphérique et sonore. Mais la mairie de Paris, Élodie Vergelati, ne compte pas en rester là.
Anne Hidalgo a livré un discours très combatif. La maire de Paris contre-attaque tout de suite. Elle fait appel de la décision du tribunal administratif. Hors de question de rouvrir les voies sur berge à la circulation. Nous ne laisserons pas faire cela. Il faut bâtir une ville plus respirable. C'est le sens de mon mandat et c'est un combat de longue haleine, a-t-elle déclaré. Dans le viseur d'Anne Hidalgo, l'opposition, la droite parisienne et régionale qui a saisi la justice. Cette droite pour qui, je cite, la circulation automobile est plus importante que la santé des Parisiens. Car pour Anne Hidalgo, les faits sont là. Depuis la piétonnisation des voies sur berge, la pollution baisse. Et si la justice estime qu'il y a un vice de procédure dans cette décision de piétonnisation, eh bien la maire de Paris répond tout simplement « Nous prendrons un nouvel arrêté ».
Il n'y aura pas de frondeur au sein de la majorité pour s'opposer au projet de loi Asile et Immigration. C'est la conviction ce soir de Gérard Collomb. Le ministre de l'Intérieur a présenté et défendu sa réforme en Conseil des ministres ce matin. Le texte qui porte un double objectif, réduire les délais d'instruction des demandes d'asile et faciliter les expulsions des déboutés. Mais pour les associations d'aide aux migrants et l'opposition de gauche, la seule logique du ministre, c'est la répression. Bonsoir Antoine Marette. Alors plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce matin devant le Conseil d'État contre ce projet de loi et Gérard Collomb leur a répondu.
Effectivement, à l'issue du Conseil des ministres, Gérard Collomb a longuement pris la parole pour défendre son texte. Un texte équilibré, selon lui, qui vise trois objectifs. Renforcer la protection des plus vulnérables, mieux adapter le droit aux réalités et surtout, c'est un argument qu'on a beaucoup entendu ce matin, faire converger les procédures françaises avec celles des autres pays européens.
C'est une loi qui est équilibrée, qui s'aligne surtout sur le droit européen et est totalement nécessaire qu'entre les pays comme l'Allemagne, comme la France, l'Italie, les Pays-Bas ou bien la Suède, nous ayons le même type de procédure. Parce que autrement, évidemment, on regarde où la procédure est la plus facile pour pouvoir obtenir le droit d'asile. Et donc, à ce moment-là, c'est chez vous que tout le monde se dirige. Il y a sans doute à peu près 700, 800 000 personnes dans l'Europe qui, aujourd'hui déboutées du droit d'asile, essayent de venir dans un pays. Donc, évidemment, si l'on ne prend pas en compte ces problématiques-là, on ne pourra plus garantir le droit d'asile demain en France.
Vous l'aurez compris, l'argument est simple. La tendance européenne est à la fermeté face à l'immigration. La France, donc, s'aligne sur cette tendance, sur le droit européen, ou plutôt le droit des pays voisins. C'est ainsi que Gérard Collomb défend les principales mesures de ce texte contesté, comme le doublement prévu à 90 jours de la durée maximale de rétention, la réduction à 15 jours du délai de recours après le refus d'une demande d'asile. Même chose pour l'aménagement des recours qui ne serait pas automatiquement suspensif. L'argument du ministre de l'Intérieur, c'est que 9 autres États membres ont cette pratique.
Et ce projet de loi Asile et Immigration sera débattu à l'Assemblée au mois d'avril. Jérôme Cahuzac ira-t-il en prison ? Éric Dupond-Moretti, son avocat, a tout fait aujourd'hui pour éviter cette issue. Devant la Cour d'appel de Paris, il a même proposé d'alourdir la peine de l'ancien ministre du Budget. Jérôme Cahuzac avait été condamné en première instance en 2016 à 3 ans de prison ferme pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. La décision sera rendue le 15 mai prochain. Des bottes de paille en feu à Bordeaux, du lisier déversé à Poitiers, des tracteurs pour bloquer les routes près de Nantes. Les agriculteurs ont manifesté partout en France aujourd'hui. Ils ont dit leur opposition au projet d'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, dont les négociations ont repris aujourd'hui. Dans 3 jours, ce sera l'ouverture du Salon de l'agriculture à Paris et demain, Emmanuel Macron reçoit 1 millier de jeunes agriculteurs à l'Élysée. Et pour parler de toute cette actualité du monde agricole, nous recevons ce soir le président du syndicat des jeunes agriculteurs. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bonsoir Jérémy Desserles. Alors cette manifestation à la veille d'une réunion à l'Élysée, c'est pour vous assurer qu'il y aura des propositions sur la table ?
Ce serait bien en tout cas que demain il y ait quelques messages qui soient en adéquation quand même avec ce qu'on est venu dénoncer, ce que les agriculteurs sont allés dénoncer aujourd'hui sous différentes formes dans les préfectures, sur les axes routiers. Voilà, ce serait bien qu'on ait quelques messages qui aillent dans ce sens-là. Ouais.
C'est faire pression, comme on dit un peu vulgairement sur le président.
C'est faire pression, écoutez, voilà, on est dans une situation où le rôle aussi des syndicats agricoles que nous représentons et aussi de faire passer un certain nombre de messages et de mettre la pression là où il faut la mettre. Nous sommes à la veille aussi du salon de l'agriculture parce que malgré tout, la vitrine du salon de l'agriculture ne doit pas non plus cacher les difficultés qui sont les nôtres.
Vous parlez des revendications aujourd'hui, c'était sur le Mercosur, hein, ces négociations avec l'Union européenne qui devraient permettre l'importation chaque année de 70 000 tonnes de viande venues du Brésil, d'Argentine, d'Uruguay et du Paraguay. Quel est le problème pour vous ?
Le problème, c'est que vous venez de parler de la viande, donc ce serait même plutôt 100 000 tonnes de viande qui pourraient arriver sur le territoire européen, mais il n'y a pas que la viande, il y a aussi l'éthanol, il y a aussi du sucre, il y a aussi du poulet, enfin de la volaille en tout cas, qui pourrait aussi inonder nos marchés. Et nous, ce qu'on explique, c'est que les produits qu'on fait en France ou en Europe répondent aussi à des attentes sociétales qui sont diverses et variées, mais qui sont quand même malgré tout bien précises.
Et supérieurs à celles des pays d'Amérique
En tout
Sud.
Cas, qui sont supérieurs, je n'en sais rien, mais les conditions de production de ces pays avec qui on est en train de discuter et même de négocier sont différentes. Donc, supérieurs ou pas, je n'ai pas à juger si c'est meilleur là-bas ou moins bon, mais ce n'est pas les mêmes en tout cas.
Et c'est ça qui vous inquiète, une concurrence déloyale, c'est ça l'idée ?
Exactement. Enfin, on vient de définir en France, suite aux états généraux de l'alimentation, comment on voulait s'alimenter demain et comment on faisait aussi pour, malgré tout, que les agriculteurs s'en sortent un petit peu mieux, puis qu'on rémunère un peu mieux leurs produits en gagnant un peu et puis en répartissant un peu mieux la valeur ajoutée. Et là, ma foi, on est prêt à se mettre encore un boulet au pied en finalement laissant la porte ouverte à des produits qui ne sont encore une fois pas en adéquation avec les attentes du consommateur.
La Fédération nationale bovine parle de 30 000 éleveurs qui pourraient cesser leur activité suite à cet accord commercial, mais aussi celui avec le Canada, le CETA. Est-ce que vous êtes aussi alarmiste que ça ?
Il y a besoin d'être alarmiste. On a perdu 30% des paysans ces 10 dernières années. On ne peut pas se permettre encore de faire des choix politiques qui vont encore tuer l'agriculture. Donc, on ne sait pas si ce sera 30 000 paysans ou éleveurs qui pourraient mettre la clé sous la porte, mais à l'allure où ça va aujourd'hui, on a quand même de quoi être pas rassuré. Donc oui, il faut quand même se soucier de tout ça et montrer un peu plus de considération à cette profession et lui montrer qu'on a encore besoin d'elle. Et c'est pas en faisant ces choix-là qu'on donne les meilleurs signes.
Mmh. Vous parliez des états généraux de l'alimentation, il y a aussi cette réunion donc des jeunes agriculteurs demain à l'Élysée, on ne peut pas dire que le monde agricole soit ignoré par le gouvernement ?
Il n'est pas ignoré, sauf qu'il faut aussi que le gouvernement entende ce qu'on lui dit et comprenne aussi réellement ce que sont les problématiques et prouve finalement qu'il est prêt aussi à nous accompagner pour résoudre et trouver les solutions à nos problèmes. On va aller voir le président de la République demain. Il nous fera sans doute un discours qui aura tendance à être porté sur l'avenir et puis l'importance que des jeunes reprennent le flambeau de l'agriculture française, mais sauf qu'il faut aussi nous accompagner à tout ça. Nous, on est prêts à relever les défis qui sont en face de nous, sauf que ça nécessite aussi une réelle confiance, une réelle certitude que, voilà, qu'on puisse le faire sereinement et voilà, on ne pourra pas produire correctement et répondre aux attentes si nous ne sommes pas accompagnés correctement, soutenus et qu'on ressente une confiance quand même de la société française.
Pour terminer, quelles mesures vous attendez ? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous annoncent principalement pour soutenir ces jeunes agriculteurs, Emmanuel Macron ?
Je ne crois pas qu'on puisse attendre du président de la République qu'il donne des mesures précises. Il faut qu'il nous donne un cap et puis qu'il nous explique quelle est la stratégie et qu'il nous explique comment il veut faire demain pour maintenir des paysans. Si vous voulez, quand s'il met les états généraux de l'alimentation en place et puis que ça se passe comme ça s'est passé, on a plutôt tendance à être rassuré. Mais quand à côté de ça, en parallèle, il va signer lui ou son gouvernement va signer des accords avec les pays du Sud, même s'il n'est pas tout seul et qu'il y a l'Europe et que ça, on n'est pas tout à fait naïf et on arrive à le comprendre, on a de quoi ne pas être rassuré. Donc faut qu'il nous explique et qu'il faut quand même qu'il soit assez punchy quand même pour nous rassurer, quoi.
Merci Jérémy Desserle. Je rappelle que vous êtes le président des jeunes agriculteurs qui représentent 5000 exploitants en France. Soleil et froid dans le nord, temps mitigé et gris dans le sud. Voilà le programme météo pour demain jeudi. Les températures iront entre 2 et 11 degrés pour les maximales.